Bonjour à toutes et à tous, on est sur Canal Sud 92.2 et aujourd'hui on a l'honneur de recevoir des jeunes de l'association
JRC,
Jeunes Reporters Citoyens qui viennent de Perpignan. On est très très content de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Merci pour l'accueil.
On est content d'avoir le temps de vous interviewer, de mieux vous connaître, que vous puissiez un peu nous raconter ce que vous faites.
Avec plaisir.
Alors, pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter juste individuellement les prénoms, vite fait, puis dire ce que vous avez envie de dire sur vous?
Bonjour, je m'appelle Zineb, j'ai 16 ans et ça fait 4 ans que je suis au GRC.
Bonjour, moi c'est Faïza, moi je suis là depuis le début des GRC.
Bonjour, je m'appelle Amina, je fais partie de la 3e génération du GRC et ça fait maintenant 2 ans que j'en fais partie.
Bonjour, moi je m'appelle Karim, je fais partie de la 2e génération des GRC.
Bonjour, je m'appelle Kaldia, je viens d'arriver au GRC.
Bonjour, je m'appelle Shaima et ça fait 3 ans que je fais partie du GRC.
Ok, super, merci. Du coup, donc, est-ce que quelqu'un, l'un ou l'une d'entre vous peut nous dire un petit peu de quoi il s'agit, c'est quoi les jeunes reporters citoyens ?
Alors, les jeunes reporters citoyens, ça a commencé avec quelques jeunes de notre quartier à Perpignan-Saint-Assisque. C'était des jeunes qui faisaient des vidéos drôles. Et Mustapha Boutouba, qui est l'un qui représente l'association, il a dit pourquoi pas faire des sujets intéressants, pas que des vidéos drôles. Donc, il s'est penché sur la question de trouver des sujets intéressants. Donc, le premier sujet qu'on avait trouvé, c'était la devise républicaine. Donc, on a commencé à tourner, à filmer, à apprendre comment se servir d'une caméra, comment...
Vous avez appris, du coup, tout seul ou comment ça s'est passé, ce processus?
Ça a été fait au fur et à mesure. On a appris comme ça.
On a appris petit à petit à utiliser, comme Faiza a dit, des caméras. Et on a aussi appris le montage pour pouvoir monter nos vidéos. On a fait des fictions et des reportages pour qu'on fasse passer un message.
Et, et suite à ça, on a été invités dans des villes où on projetait nos films. Et suite à ça, il y avait un débat. Et on pouvait parler avec les personnes et débattre. Des divers sujets qu'on a tourné et qu'on a fait.
Du coup, c'est quoi les sujets que vous abordez ou que vous avez abordés dernièrement?
Le réchauffement climatique.
Le réchauffement climatique?
Oui. Ouais.
Après, il y a eu aussi la discrimination. On était parti avec quelques jeunes à Narbonne et on avait montré certains des films qu'on avait tournés. Et on avait échangé avec des sociologues qui eux-mêmes avaient ces idées et qui avaient tourné ou bien avaient fait des études sur ce sujet.
Ok. Et comment vous choisissez vos sujets?
On se réunit tous pendant une réunion et on laisse paraître notre imagination. Et par exemple, là, récemment, on a fait une fiction sur le Covid et chacun a parlé et le sujet est venu tout seul.
Et du coup, vous parlez qu'en fait, votre asso, vous parlez de génération. Quand vous avez dit, moi, je suis de la 3e génération, je crois.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs générations. Il y a la première génération, c'est les personnes qui ont eu l'idée de la sauce, qui ont commencé dès le début. Et après, il y a eu la 2e génération, c'était les plus petits. Et comme il y a des petits du quartier qui étaient intéressés, parce qu'on voyageait, on voyageait gratuitement en plus, donc ils étaient intéressés, et il y a eu une 3e génération.
Ils prennent la relève parce que actuellement, la première génération, ils ont entre 24, 25 et 20 ans, 21 ans. Du coup, ils arrivent à un âge, ils ne peuvent plus continuer l'association. Du coup, ils laissent la relève à la 2e, à la 3e génération, et etc. Ça... se perpétuera jusqu'à que... voilà quoi.
Et du coup, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la transmission qui se fait entre les différentes générations?
Oui, je pense que oui.
Vous apprenez que l'ancienne génération forme les nouveaux, puis ensuite passe la relève?
Oui, par exemple, quand on fait des séjours dans les villes ou à la montagne, on fait des séjours intergénérationnels. Et on apprend de nos aînés. Et on regarde ce qu'ils font et on apprend d'eux.
Et ce que vous faites, ça, pour vous, ça sert à quoi? Ou c'est quoi un peu vos motivations?
Ben, d'abord, ça sert pour nous, parce que des jeunes qui parlent de politique, de devises républicaines, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, personnellement, en cours, quand je dis que je suis partie d'une assoce, déjà, ça les choque. Et en plus de dire qu'on parle de certains sujets sensibles, comme la discrimination, le port du voile, ben, ça choque encore plus. Donc, je trouve que ça nous cultive. Et je trouve ça intéressant de s'intéresser à ça, parce qu'on est la génération de demain.
Tu dis que c'est des sujets qui se choquent, mais pourquoi? Vous avez l'impression que ça choque?
Parce qu'en fait, généralement, on parle de sujets tabous dont la société ou bien les personnes ne veulent pas parler par rapport à des idéologies différentes, je dirais.
Alors, ça serait quoi, cette idéologie, selon toi ou quelqu'un d'autre, peut-être?
Ben, une mauvaise image des quartiers. Dans les quartiers, il manque que les personnes qui font n'importe quoi, ils n'ont pas le bon côté des quartiers populaires.
La plupart des gens qui prennent la voix à la radio pour parler des quartiers, certaines personnes-là n'ont jamais mis un pied dans un quartier. Elles se prétendent tout savoir sur les quartiers. Et moi, je comprends pas pourquoi c'est pas les jeunes qui ont grandi et vécu dans ces quartiers-là qui prennent la parole sur les chaînes de télévision.
Du coup, c'est ça un peu votre démarche, si je comprends bien. Vous venez d'un quartier et vous avez eu envie de porter votre voix en tant que jeune de ce quartier, votre vision du monde, votre vision des choses.
C'est ça, entre guillemets aussi, mais ça, c'est pour que ça nous apporte quelque chose personnellement, qu'on en apprenne plus, parce que vous demandez à n'importe qui ici autour de la table, on en a tous appris, qu'on le veuille ou non. C'est pour notre culture personnelle aussi. Je trouve que en voyageant, aller rencontrer des autres villes, on peut en apprendre sur les autres aussi, voir les autres mentalités, pas rester enfermé dans notre bulle, dans notre ville. Je vais essayer de découvrir les autres personnes comment sont, et grâce à ces différentes rencontres, ben, notre façon de réfléchir a changé, parce que on grandit, je trouve, en découvrant les autres personnes.
Ouais, donc en fait, c'est vraiment une démarche de à la fois donc porter une vision du monde depuis là où vous êtes, depuis votre quartier, et en même temps apprendre et être dans l'échange avec toutes les autres personnes que vous rencontrez, toutes les autres visions du monde que vous rencontrez, c'est ça ?
Il y a une phrase connue qui dit la banlieue influence Paris et Paris influence le monde. Baba Banks.
Alors, et du coup, en ce moment, vous travaillez sur quoi ?
Ben, les plus jeunes, ils ont fait une fiction.
Sur le Covid-41.
Sur la Covid-41. Et moi, j'ai fait avec les JRC pour mon BTS, un reportage sur la Covid, comment les jeunes ont ressenti le confinement, le couvre-feu, si ça s'est bien passé ou pas. Donc, c'était surtout sur l'actualité, la Covid.
Et du coup, est-ce que vous avez l'impression d'avoir apporté une vision un peu différente de ce qu'on voit normalement dans les médias sur ce sujet?
Après, nous, à notre portée, à part aller voir des autres associations et... Parce que regardez, par exemple, l'année dernière, on a eu toute l'association, que ce soit les plus grands ou les plus petits, ils ont eu rendez-vous avec le préfet dans la préfecture, avec ses adjoints, etc., pour une réunion. Mais malheureusement, pour un certain financement, parce que actuellement le seul financement qu'on a, c'est toutes les territorialités, ça se dit Toutes les territorialités sauf notre ville. C'est-à-dire tout le monde nous finance sauf notre ville. Je sais pas si c'est très très logique, mais on a eu un rendez-vous avec lui, il a dit qu'il resterait derrière nous, etc. Mais en fait, il a laissé tomber. Du coup, nous, à part aller voir les autres associations et donner notre point de vue, on n'a pas une aussi grande portée que ça. Sauf si un jour nos vidéos y percent, c'est...
On devient célèbre.
Voilà.
Vous avez une chaîne YouTube ou un truc comme ça?
Non.
Non? Du coup, comment on peut voir vos vidéos?
Ben, en fait, quand on part en séjour dans des grandes villes, ben, on les montre aux autres jeunes en les diffusant sur des grands écrans. Et après ça, on débat. Et voilà.
Et c'est un choix, du coup, de ne pas être sur les réseaux?
Oui, c'est un choix. C'est pour que les personnes nous invitent et pour qu'ils découvrent le film. Parce que si on met sur les réseaux, ça sert à quoi d'aller voir les personnes, les rencontrer et tout ça, et de parler du film?
Ouais, donc c'est aussi c'est une démarche plus professionnelle, j'ai l'impression,
voilà.
C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Okay. Et du coup, alors Karim, toi, tu as parlé que vous n'êtes pas financé par votre ville. Donc, je rappelle que vous venez de Perpignan.
Perpignan, 66 représente Quartier Sud.
Et alors, comment ça se passe pour vous à Perpignan ? Donc, j'imagine que c'est lié au fait que Perpignan est aujourd'hui passé à l'extrême droite. Cette question des financements. Alors, comment ça se passe pour votre asso et comment ça se passe pour vous aussi, en tant que jeune ?
Ben, en fait, l'association n'a jamais... Enfin, la ville n'a jamais aidé l'association, même quand c'était pas la droite qui était. Donc, ça veut dire qu'elle n'a jamais apporté. Et nous, on comprend toujours pas pourquoi. Parce que c'est quand même...
Je pense que ça n'a rien à voir avec le parti politique. Parce qu'à l'époque, c'était... Pujol, qui était maire de Perpignan, ça aboutit au même résultat, que ça soit la gauche ou la droite, en fait, c'est le même résultat.
Mais au début de l'association, on avait le soutien de la mairie, mais dans un reportage qu'on avait fait sur le partage de richesses, il y a un jeune qui avait dit, il avait dit « Oui, Inch'Allah, j'ai le bac », et la mairie a demandé qu'on supprime le mot « Inch'Allah ». Donc, suite à ça, on a été en embrouille avec la mairie et elle a arrêté de... Je ne sais pas si elle nous avait financé, donc elle a arrêté de nous financer. On n'a plus de rapport avec la mairie.
Pour ceux qui ne savent pas, Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Ça n'a pas de pensée bizarre, ça ne veut rien dire. Juste dire, ça veut si Dieu le veut. C'est comme si on me dit, j'espère que j'aurai le bac. Ça a la même portée, ça n'a rien de choquant.
Ok, donc si je comprends bien, en fait, depuis le début de l'association, en tout cas, la mairie ou les collectivités locales, elles ne vous ont pas du tout soutenues.
Voilà, c'est ça.
Et donc, ça, est-ce que vous avez aussi... est-ce que ça impacte aussi vos vies, vous, le fait d'habiter à Perpignan, ou comment vous le vivez ?
Est-ce que moi, pour ma part, ça n'a pas atteint.
C'est difficile d'être jeune à Perpignan aujourd'hui ou...
Non, parce que j'ai grandi à Perpignan. Du coup, cette ville, je la connais à peu près par cœur. Mais si je serais pas née à Perpignan et que je viendrais juste d'arriver, eh ben, je me sentirais pas à l'aise, pas à ma place.
Moi, je pense que depuis qu'il y a eu les élections et que c'est le FN qui est passé... Après, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est plus les garçons qui ont été atteints parce qu'ils ils sont plus contrôlés, à chaque fois contrôlés. Moi, je sais que mon frère, il est tout le temps contrôlé quand il va à la salle de sport, parce que c'est un arabe.
Ok, merci. Eh ben, je vous propose qu'on écoute une petite musique. On vous avait demandé de choisir des sons que vous aviez envie de passer. Du coup, je sais pas c'est qui a choisi, Soul King, c'est toi ? Donc, on va écouter le son que Zineb a choisi.
Paraît que le pouvoir s'achète. Se répète, on sera acteur de la paix. Si faux, vos discours sont si faux. Ouais, si faux, qu'on a fini par s'y faire. Mais c'est fini, le verre est plein. En bas écrit, entends-tu l'envoi? La voix de ses familles, plein de chagrin. La voix qui prie. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté. La liberté, nous, ça nous fait pas peur.
abandon nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. Ils ont cru qu'on était mort, ils ont dit bon débarras. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara ma tombe, emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir pour un nouveau matin. Oui, j'écris pour y croire. L'avenir est incertain. Oui, j'écris car nous sommes main dans la main. Moi, j'écris car nous sommes la génération dorée. La liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur.
On est toujours sur Canal Sud 92.2 et on est avec les jeunes reporters citoyens aujourd'hui qui viennent de Perpignan. On est très content, très contente de vous avoir avec nous pour pouvoir un petit peu vous poser des questions. Donc on vient d'écouter Soul King Liberté, un morceau qui a été choisi par Zineb. Zineb, est-ce que tu veux nous dire un petit peu pourquoi tu as choisi cette chanson?
En fait, j'ai choisi cette musique parce que c'est surtout pour le chanteur. Qui est algérien et s'est entre guillemets enfui de l'Algérie en prenant la mer et est venu en France pour agrandir son public. Et j'ai choisi cette musique parce qu'elle parle de l'Algérie et de son indépendance. Même si elle est indépendante aujourd'hui, elle a quand même la trace de son passé qui était douloureux, parce qu'elle a été colonisée par les Français.
Et toi, du coup, tu portes cette identité-là?
Oui, mes grands-parents sont arrivés en France pendant la colonisation. Et donc, moi, je suis fière d'être algérienne et de porter mes origines, parce que c'est très rare les pays qu'ils ont été décolonisés et qui sont
libres.
Oui, qui sont libres.
Ok, merci. On a été rejoint par un des jeunes de cette association. Est-ce que tu veux te présenter?
Ouais, je me présenter quoi, caméraman de l'association et aussi la personne la plus importante. Et la personne la plus charismatique aussi. Et voilà.
Et comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Afid. Un nom très...
Et qui est pas rigolo renard.
Voilà, merci, mais fallait pas parler.
Ça va, tout le monde va bien autour de cette table ?
Ouais,
ouais.
Très bien.
Ouais. Vous êtes pas endormi ?
Un peu.
Un peu ? Bon, je vais vous poser des questions un petit peu plus stimulantes alors.
Ok.
Alors, vous, aujourd'hui, c'est quoi qui vous énerve ? Vas-y, Karim.
Déjà, c'est une question politique. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on tourne toujours autour du port du voile. Alors qu'il y a des choses plus importantes à gérer dans le pays. Mais non, au lieu de gérer les choses plus importantes, l'économie...
L'augmentation de l'essence.
Le chômage, il y a plein de sujets très importants à gérer pour le pays. Maintenant, ils préfèrent se focaliser sur le port du voile. Après, si ça les amuse, tant mieux. Mais ça m'énerve.
Rafid ?
En parlant d'essence, Faiza, moi, un truc qui me choque, c'est un jour, j'étais avec un ami et son pneu de sa voiture a été dégonflé. On y va pour la gonfler, ils font payer de l'air. Ils font payer de l'air en pression. Ils font payer de l'air. De l'air, moi, ça m'a choqué personnellement.
On achète tout, on doit acheter tout aujourd'hui, ouais. C'est ça ? Quelqu'un d'autre ? Ouais, vas-y.
Moi, ce qui m'énerve, c'est l'ignorance de certaines personnes. Quand je veux dire ça, c'est des personnes qui s'appuient sur des stéréotypes et des choses non fondées. Que ce soit sur, comme l'a pu dire Karim, le port du voile ou bien, par exemple, par rapport aux personnes des quartiers et tant d'autres choses. Voilà, tout ce qui fait référence aux minorités.
Les représentations, tu veux dire ?
Oui, c'est ça.
Dans les médias ou en général ?
Ben,
en
général, partout, même dans la vie réelle. Quand je dis dans la vie réelle, c'est par exemple des personnes qui discutent. À ce moment-là, ils vont faire référence à des stéréotypes. Et les stéréotypes, on sait tous que ça amène à des discriminations, qu'ils soient positives ou bien négatives. Donc à ce moment-là, comme j'ai pu le dire, l'ignorance, la non-connaissance des personnes qui nous entourent et la non-connaissance du monde et de notre société qui a évolué, ça mène à des dérivés de haine.
Shaima, c'est quoi qui t'énerve ?
Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand ma sœur prend mes habits. Et voilà.
Et par exemple, les propos de Zemmour, Shaima, t'énervent moins que ta sœur quand elle prend des
Zemmour,
habits.
J'écoute pas, moi, Zemmour. Zemmour, c'est un petit rigolo, Zemmour. Il veut faire le clown. Il a une tête de clown. Franchement,
c'est quelqu'un, je pense, qui a oublié d'où il venait. Parce que il faut quand on se dit, c'est un Algérien, je crois, ou un Berbère. Donc, c'est comme s'il crachait sur ses propres ancêtres, vu que il est pas français.
Moi, je trouve, je pense qu'il y a derrière toute cette haine. Il y a un certain complexe d'infériorité qui est caché derrière lui parce que, franchement, pour que Zemmour vous énerve, il faut vraiment être petit dans sa tête parce que ça vole pas haut. Toujours le même sujet de discussion. Mais franchement, moi je trouve que vraiment pour que ça vous touche, il faut que vous n'ayez pas une certaine façon de réfléchir. Parce que.
Toi, tu penses que. Il faut plutôt se concentrer sur d'autres choses, c'est ça ? Pas écouter,
c'est ça,
pas
c'est
donner
ça.
De l'importance.
C'est ça, voilà.
Il faut l'ignorer, quoi.
Comme l'a pu dire Hafid et Karim, c'est que de l'air, ce qu'il dit.
Vas-y, Hafid.
Zemmour, il se nourrit de la peur des gens. C'est normal qu'il a beaucoup d'importance. Il pèse un peu, là, dans le game, si je peux me permettre. Et à l'époque de mon père, le FN, ils avaient quoi ? 5% de vote. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils ont 30%. À l'époque, mon père, il me disait, ouais, t'as vu, 5%, c'est beaucoup. Il s'inquiétait. Alors que maintenant, là, genre, il a prédit un peu. Après, Zemmour aussi, son enfance, elle a dû être difficile. Hein, faut le comprendre, faut pas le blâmer. Faut comprendre le passé pour améliorer le futur.
Et du coup, vous, ça vous énerve, ça vous inquiète, la montée de l'extrême droite, ou plutôt vous êtes sur autre chose ?
Ben, je trouve ça plutôt inquiétant qu'il y a des personnes, enfin qu'il y a de plus en plus de personnes qui pensent pareil que Zemmour. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont fermées d'esprit et pas ouvertes d'esprit. Et nous, avec nos reportages, on essaye de changer l'image, ben, déjà des Arabes, et des quartiers.
Et du coup, qu'est-ce qui vous donne de la force aujourd'hui?
Nos mamans.
Moi, je dirais que c'est l'espoir qui nous donne de la force. Oui. Parce que c'est nous qui avons créé le futur. Donc, on a de l'espoir pour notre futur. Et on a, je pense, tous envie que notre pays, qui est la France, soit le mieux possible. Qu'elle puisse accueillir les personnes, les étrangers. Et comme, par exemple, pour le port du voile, dans certains pays, il est autorisé même en primaire pour les enfants. Donc je pense que quand notre pays il sera enfin vraiment libre, je pense que là, on sera enfin tranquille.
Pays vraiment libre, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que si on ne serait pas vraiment libre, on n'aurait pas eu l'autorisation de mettre les voiles. C'est pas que le pays n'est pas libre, c'est que certaines personnes qui font partie du pays pensent avoir raison sur des sujets qu'ils n'ont même pas 1% de la connaissance requise pour en parler. Parce que, comme on va encore reparler de plateau télé, mais la quasi-totalité des personnes qui parlent de vol, je crois qu'il y a eu une seule voilée qui a parlé, c'était sur C8. Combien d'émissions a été... Le sujet principal était le voile. Combien de voilées on voit sur les postes de télévision? Quasiment aucune. Je trouve ça encore pas du tout logique.
En fait, je trouve qu'ils n'invitent pas les personnes concernées. Ils laissent parler les personnes qui ne sont pas du tout calées sur le sujet, comme on va redire Zemmour. Et ils ne laissent pas les personnes concernées parler. S'ils laisseraient des musulmanes voilées parler, s'exprimer, dire qu'elles sont pas du tout soumises à leur mari ou à leur frère ou je sais pas ou à leur père, mais même je pense que si ils invitent des voilées, ils croiront pas, parce qu'ils ont une image de l'islam qui est mauvaise. Et quand même, vu que la plupart des GRC on est musulman, ça nous choque quand même. Ça nous vexe qu'on soit désigné du doigt comme ça, comme si on était pas humain, on était différent, quoi. On n'était pas pareil qu'eux.
Parce que même si, par exemple, nous-mêmes, on porte pas le voile, mais dans nos familles, il y a toujours quelqu'un qui porte le voile. Nos mères, nos sœurs, nos tantes, nos grand-mères. Du coup, ça nous touche d'un point de vue extérieur, mais ça nous touche quand même, parce qu'on le vit un peu.
Et du coup, cette manque de représentation du coup, dans les médias, donc, comme tu dis, que ce n'est pas les personnes concernées qui parlent, est-ce que c'est quelque chose contre laquelle vous luttez? Est-ce que vous avez envie, dans votre action, de transformer ça? Ou est-ce que vous avez envie d'aller parler dans les médias, par exemple, ou...
À vrai dire, le sujet du port du voile, on a déjà fait référence. On a fait un documentaire sur ce sujet. Le documentaire, il me semble, qui s'appelle « Les Dames du Bavernais ». Ça fait, comme l'a pu dire Karim, c'est un sujet qui nous concerne parce que nos familles sont concernées. Et en fait, comme ça fait du mal à nos familles, ça nous fait du mal à nous aussi. Parce que les personnes qu'on aime, elles souffrent à cause de quelque chose, je dirais, d'aberrant et je dirais même idiot, parce que c'est quelque chose qui les concerne à elles et ça devrait concerner que elles. Que les femmes qui portent le voile et non les hommes politiques ou même des personnes qui n'ont aucune connaissance, qui s'appuient sur des sources non fondées.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus?
Non.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous donne de l'espoir? Qui vous donne de la force? On a dit l'espoir. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites? Peut-être c'est dur de nos jours de trouver des trucs qui nous donnent de la force, mais il doit bien y en avoir.
Ce jour.
Nos projets. Parce que d'une certaine manière, si on ne réussit pas à changer les mentalités dès maintenant, si on reste passif jusqu'à qu'on grandisse, arrive un moment, si les mentalités sont très mauvaises, on aura du mal à concrétiser nos projets. Il faut faire entendre ce qu'on a à dire.
Du coup, est-ce que vous avez l'impression de défendre quelque chose ou de lutter pour quelque chose?
On défend nos valeurs. Vu que on est visé à chaque fois
On défend nos droits, entre guillemets, nos libertés. Parce que sinon, on reste dans nos bulles, on reste dans nos quartiers, on reste dans nos habitations et on parle pas, on se laisse persécuter jusqu'à que ce soit trop tard, en fait.
En fait, à vrai dire, on défend des libertés fondamentales et des notions que la France a mis en place durant la Révolution. Donc, par exemple, la liberté, ce qui maintenant est très dur d'avoir, c'est un peu quelque chose qui est compliqué parce que la liberté est restreinte pour certaines personnes, mais pour d'autres, la liberté, elle n'est pas restreinte. Parce qu'en fait, il faut s'appuyer sur la liberté, c'est quelque chose d'important. Parce que notre liberté, elle s'arrête où celle d'autrui commence. Donc on ne peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête et en même temps blesser quelqu'un d'autre. Parce que les personnes politiques ou bien les personnes qui veulent donner leur avis par rapport à des débats, c'est ce qu'elles font. Elles déchaînent leur haine sur des personnes qui souffrent tout au long de leur vie et après ça leur fait du mal. Après elles ont peur de sortir parce que si les mots peuvent blesser, les personnes aussi peuvent blesser, elles peuvent les frapper et il peut y avoir des violences parce que beaucoup de personnes qui, par exemple les femmes voilées et tout, il y a eu beaucoup d'agressions par rapport à ça. Mais il n'y a pas eu que des agressions verbales, il y a eu des agressions physiques.
Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Amina, parce que tu dis que vous défendez des valeurs, enfin les valeurs du coup qui sont les valeurs de la République française. C'est aussi ce que... tout le monde en fait revendique, mais j'ai l'impression que dans ce que tu dis, c'est pas la même vision aussi de ces valeurs-là. C'est ça ?
Oui, c'est
que
ça.
Vous revendiquez pas la même vision de la liberté ou la même vision de l'égalité que le font, par exemple, les politiques au pouvoir.
Si juste certains partis politiques, entre guillemets, écouteraient ce que les femmes voient autant dire, parce que. Il se base sur des... Je trouve que... Je sais pas comment on peut réfléchir comme ça, en fait. Se dire que... Se mettre une idée en tête et ne plus l'enlever sans écouter les avis des autres. Sans écouter l'avis des personnes dont vous parlez. Vous mettez une idée en tête venue de nulle part sur des... Sur de la haine, en fait. Parce que tout ça, c'est basé sur une haine. C'est parti d'une haine raciale, entre guillemets.
En fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils s'ouvrent pas. Et je trouve ça dommage qu'ils restent enfermés sur leurs propos à eux et qu'ils s'ouvrent pas pour en fait comprendre. Parce qu'on dirait qu'ils veulent pas comprendre. Ils veulent juste pointer du doigt et pas comprendre.
Alors je vous propose pour continuer, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une interview de Saïd Bouamama. Est-ce que vous voyez qui c'est ?
Non.
Non ? Vous voyez pas qui c'est ? Ok, donc Saïd Bouamama, en fait, c'est un sociologue qui est aussi militant dans des quartiers populaires et qui vient de Lille et qui a beaucoup travaillé sur la question de l'immigration, de la transmission. Là, c'est une interview qu'on avait fait sur la transmission. Comme j'ai l'impression qu'aussi ça revient un peu dans vos préoccupations, dans vos sujets, on avait envie un peu de vous faire rebondir là-dessus. Et en fait, vous allez entendre que dans cet extrait, lui, il a aujourd'hui, je crois, il a une soixantaine d'années. Donc lui, il était jeune dans les années 80 et il était militant. Il a commencé à se politiser autour de la marche pour l'égalité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la marche pour l'égalité et contre le racisme. C'est une grande marche qui a été faite par beaucoup, en majorité des Arabes dans les années 80. Pour lutter contre les crimes racistes, parce que c'était une époque où il y avait beaucoup d'Arabes, de jeunes Arabes qui se faisaient tuer, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Donc lui, il a milité là-dedans et il s'est rendu compte qu'il y avait des gens de la génération d'avant, donc des travailleurs arabes, qui étaient arrivés donc du coup dans les années 50, 60, et qui n'avaient pas de transmission entre les générations. Donc là, on va écouter et après, je vous ferai rebondir, voir est-ce que ça vous parle ou qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. Ça marche ? On écoute.
Donc toute cette génération-là qui date des années 50 et 60, elle n'a pas transmise. Et le MTA n'a pas transmis. Et pourquoi ça ne s'est pas transmis ? Ben, c'est parce qu'il y a cette idée que la lutte, c'est maintenant, ce qui est vrai. Et donc on ne pense pas qu'on n'inscrit pas dans la durée. chaque génération pense que son combat, voilà, c'est maintenant, etc. Et la prise de conscience que c'est un combat de long terme, c'est vraiment une dimension importante qui se pose pas spontanément. Si c'est pas posé par des productions, etc., ça se pose pas spontanément. Et le résultat, c'est que les nouvelles générations, on arrive à devoir réinventer ce que les autres ont fait auparavant. Quand on regarde les autres catégories exploitées ou dominées, on est obligé de s'apercevoir que c'est à partir du moment où la question de la transmission a été prise en charge qu'on a commencé à avoir une dimension cumulative. Le mouvement ouvrier, c'est quand ils ont commencé à avoir dans les syndicats, des instituts de recherche, de mémoire, etc., quand il a commencé à avoir des formations qui venaient rappeler l'histoire, etc., jusqu'à aujourd'hui. La question de la transmission n'est pas encore prise en charge collectivement. Résultat, on aurait eu un vide de transmission complet s'il n'y avait pas eu le rap. C'est-à-dire que le rap a servi, dans cette forme musicale, à rappeler quelques fondamentaux. Pas de justice, pas de paix, ça c'est un fondamental, que chaque génération aurait réinventé, mais que le rap a permis de poser comme point de départ et pas comme point d'arrivée. Et donc on a toute une série de choses qui se sont transmises comme ça par le rap, et le rap a été un des derniers vecteurs de transmission du savoir populaire et de l'expérience populaire. C'est pas que le savoir, c'est aussi l'expérience, c'est ce qu'on retire de lutte. Et sans le rap, on peut se demander, aujourd'hui la situation pour moi de non-transmission est déjà grave, mais sans le rap on aurait eu un vide mais catastrophique.
Est-ce que quelqu'un veut réagir?
Il a raison. Parce que quand il dit que le rap, ça transmet le message, on a les papas du rap, entre guillemets, qui nous viennent en tête, comme Kerry James, les anciens IAM, le groupe IAM, qui est un grand groupe de rap de quartier, qui essaie de faire passer des messages aussi. Grand Cours Malade, qui fait du slam, mais que lui, c'est une forme de rap, entre guillemets, qui fait passer des messages, lui aussi.
Donc vous avez l'impression qu'à travers, en écoutant du rap, à travers le rap, vous avez pu avoir des choses qui ont été transmises ou apprendre des choses sur votre histoire ou des choses comme ça?
Oui, parce que certains rappeurs, ils parlent de notre histoire. Et c'est assez intéressant d'écouter ce qu'ils ont à nous dire sur ce qui s'est passé il y a plusieurs années, comme avec des anciens rappeurs ou des rappeurs un peu plus modernes qui parlent de leur vécu avec leur famille et de ce qui s'est passé. Par exemple, si c'est des haragas qui ont traversé la Méditerranée, on peut savoir leur vie et tout ça.
Y a pas que le rap qui peut transmettre des mots. Il y a un chanteur que j'aime bien qui s'appelle Renaud. Et lui, il a eu beaucoup de sang à lui qui ont été censurés parce que il dénonçait quelqu'un peut m'aider pour les inégalités à travers des personnages, à travers même la fable de la fontaine, c'est comme ça. Non, même lui, il a à travers des animaux. Et il a fait passer des messages. Et ça pouvait pas être... Je sais pas si ça a été censuré, mais je pense pas que ça a été censuré. Parce que c'est à travers des animaux. Et comme le personnage du lion, c'est le roi. Et je me rappelle plus de cette fable, mais...
certaines pièces de théâtre de Jean Lafontaine ont été censurées car d'après les états politiques... Ça pouvait engendrer une certaine prise de conscience chez la population. Du coup, ils ont préféré pas prendre de risques et les censurer.
Oui, c'est vrai que de toute façon, toutes les productions un peu culturelles comme ça, critiques, souvent, ça fait débat et ça peut être censuré.
Vas-y. Après, je trouve que cette histoire, c'est la nôtre. C'est-à-dire qu'on l'apprend pas à l'école. Et que si on l'apprend pas à l'école, on peut l'apprendre que sur des... comme le rap, par exemple. Parce que vu que, par exemple, le programme d'histoire, on nous apprend pas la guerre d'Algérie, ou la seule histoire, entre guillemets, dont on parle de l'Afrique, c'est lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale, des tirailleurs sénégalais On la survole encore. On parlait des pays colonisés dont les soldats allaient à la guerre pour la France et qui étaient souvent envoyés en première ligne à chair à canon. À l'école, on ne nous apprend pas la guerre d'Algérie ou le régime qui a été établi après la colonisation du Maroc, par exemple.
Après, il n'y a pas que le rap qui permet de transmettre des messages. Il y a toutes les formes artistiques. Par exemple, on peut dire les tableaux, comme il me semble le tableau de la Croix, qui a mis en évidence l'indépendance de la Grèce. Donc en fait, ce tableau, il est iconique. C'est-à-dire, il concerne tous les pays qui ont été colonisés. Comme par exemple l'Algérie, le Mali, le Vietnam. Tous ces pays qui ont été colonisés par les nations européennes. Mais quant à la Grèce, elle a été colonisée par l'Empire ottoman.
Il y a aussi des films qui ont parlé de la guerre d'Algérie, par exemple. Je m'en souviens plus du titre, mais c'est un très grand film avec Jamel Debbouze, qui ont montré les massacres que les Français ont fait en Algérie.
Mais du coup, c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est vrai que l'histoire de l'immigration, l'histoire de la colonisation française, on l'apprend peu ou mal à l'école, et que du coup, il faut trouver d'autres canaux de transmission. Donc oui, on a parlé du rap, mais c'est vraiment intéressant aussi les autres canaux que vous apportez. Vas-y, tu voulais rajouter un truc?
Le titre du film, il s'appelle Hors la loi.
Ok, je l'ai pas vu moi personnellement, mais
je vous le conseille, il est vraiment bien.
Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter un truc sur la transmission? Est-ce que aussi c'est quelque chose que vous, dans vos familles par exemple, vous avez eu un peu cette transmission sur, par exemple, la guerre d'Algérie, ou en tout cas l'histoire de la colonisation, ou pas trop?
Par rapport à la guerre d'Algérie, il y a la version des Français et la version des Algériens. Donc d'un côté, les Français, ils n'ont pas fait autant de mal. Mais d'un côté de l'Algérie, ça a été un massacre. C'est eux les fautifs à 100%. Donc à l'école, ils nous apprennent la version française. Quand je raconte à mes tantes du bled la version française, ils me disent que c'est n'importe quoi, que ça s'est pas du tout passé comme ça. Qu'il y a vraiment une grande différence, quoi.
Du coup, toi, dans ta famille, t'as l'impression que t'as pu avoir cette autre version.
Oui, voilà. Après, je pense que moi, la version algérienne est vraie.
Et du coup, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, vous portez cette identité algérienne. Après, il y a peut-être d'autres identités autour de la table. Comment vous vous portez
Chleh d'Agadir. Nizgan vive les chleh.
Est-ce que vous identifiez... comment vous vous identifiez? Est-ce que vous avez plusieurs identités? Ou quelles identités vous portez?
Non, je garde l'identité chleh. Je suis fier d'être chleh. Je ne comprends pas les gens qui ne sont pas fiers de ce qu'ils sont. Il y en a, ils ont honte, par exemple, quand ils vont dans des grandes écoles, etc., de dire qu'ils ont honte de dire d'où ils viennent. Moi, au contraire, si je vais dans des grandes écoles, je veux montrer aux gens qu'il n'y a pas que les personnes de souche noble, entre guillemets, qui peuvent réussir dans leur vie. Moi, je suis là pour porter mes couleurs, mes valeurs, et je suis fier d'être chleh, je vais les chleh.
Aymen, toi, comment tu te... Quelles identités t'as l'impression de porter aujourd'hui?
Moi, je suis français.
Français et autre, ou...
Il est français.
Tu te sens français?
Oui.
Tu es français?
Oui, non. Mais
pas tes origines.
Et je suis d'origine française.
Ça y est. En fait, il faut couper tous les moments d'Aïmen. Hein.
Et les autres, vous vous sentez français?
Quand je dis chleh, je suis français aussi. Je dis pas je suis chleh. Parce que je suis français d'origine marocaine, d'origine chleh. Mais avant tout, je suis français, bien sûr, vu la France.
Du coup, là, t'as dit trois identités. Comment tu vis ça, toi? Est-ce que tu le vis comme compliqué, ou est-ce que...
Non. Personnellement, je le vis bien. Personnellement, je le vis bien, parce que je vois pas où est le problème d'avoir trois identités différentes. Parce que je sais pas ce qui a dit, qui a dit que ouais, fallait avoir qu'une identité, ou qu'une origine, ou qu'une nationalité. Moi, personnellement, je le vis, je le vis très bien.
Zineb, t'allais dire un truc ?
Personnellement, moi, j'ai mon sang qui coule. Mon sang est algérien. Je suis née en France et dans un pays catalan. Donc, je suis française, catalane et algérienne.
T'as dit dans un pays catalan ?
Oui. Perpignan fait partie d'un pays catalan.
Après, vous allez penser qu'on n'aime pas la France. On est français de base, on est français, on est né en France, on est français. C'est juste qu'on est, fiers de nos origines et on n'a pas honte de les montrer comme certaines personnes qui ont honte de montrer leur origine. Mais avant tout, on est français, faut pas l'oublier.
Moi, quand je suis en France, on me dit rentre chez toi. Quand je suis au bled, on me dit rentre chez toi. Et je sais pas trop où me situer, mais je pense que mon pays, c'est l'Algérie, mais je me sens chez moi en France. Et les gens qui me disent que t'es pas français, je sais pas quoi, mais c'est des zoubes.
Est-ce que y en a d'autres ici qui sentent ça un peu, qu'on te dit que t'es pas chez toi partout où tu vas?
Au bled, moi, quand je vais au bled, mes oncles, ils me disent séfarienne. Séfarienne, ça veut dire étranger. C'est-à-dire étranger du Maroc. Marocain, mais qui ne vient pas du Maroc. Quand je suis en France, comme ils disent, ils me disent pas forcément rentre chez toi, mais ils me disent je suis pas.
Ils te font comprendre.
Voilà, ils me font comprendre. Et au bled, mes oncles, ils me taquinent en me disant ça fait rien, ça se dit. Ça se dit étranger.
Il y a une copine à moi qui dit on est les enfants de la mer. Voilà. Parce qu'on est entre les deux.
Moi je suis l'enfant de la vie.
Donc.
Les pigeons et les aigles ne volent pas ensemble.
Wow. Marie,
des voleurs de chats.
Non, mais c'est moi. Je voulais rebondir sur un truc qui dit Karim, et je voulais savoir, par exemple, il dit que il y a ses oncles qui lui disent un truc, et de l'autre côté, il y a d'autres gens. Je voulais savoir si pour toi, ça avait le même impact. Tu vois, ces deux entités-là, est-ce que ça a la même force, le même impact? Tu vois, ou est-ce que c'est différent?
Non, parce que mes oncles, c'est plus sur le ton de la rigolade. Ils disent, mais je ne pense pas juste pour rigoler. Et au Maroc, c'est mon pays, c'est là d'où je viens. Du coup, c'est plus autant de la rigolade, alors que ici, c'est plus de la haine et de la colère qui est déversée dans les mots qu'ils disent. Après, moi, j'ai un grand cœur. Du coup, ça me touche pas. Ma mère m'a appris des choses, du coup, je fais pas attention à ce qu'on me dit.
Et Shaïma et Kaldien, est-ce que vous avez envie de rebondir un peu sur cette question des identités? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez française ou pas? Ou plusieurs identités?
Moi, je suis d'origine algérienne, mais je me sens française parce que je suis née en France, j'ai vécu en France. Et pour moi, je me sens à ma place en Algérie et en France. C'est pas parce que j'ai une autre origine que je suis différente.
Et ça, t'arrives à l'assumer en France, aussi bien en France qu'en Algérie?
Oui.
Amina?
Moi, je suis de nationalité française, je suis née en France et je suis aussi d'origine algérienne. Et jamais je renierai mes origines parce que renier mes origines, c'est aussi renier mon histoire.
Je sais d'où je viens, donc je sais où aller. Baba Banks.
Alors, on arrive bientôt à la fin. Des petites questions pour finir, pour ouvrir aussi un petit peu sur l'avenir, ou c'est quoi un peu vos horizons. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes jeune, je crois que vous avez 19 ans, tous et toutes.
16 ans.
16 ans.
Moi, j'ai 15 ans.
Non, j'ai 15.
15.
T'as
21
ans.
J'ai 20 ans.
Donc de 15 à 21 ans. Donc vous êtes jeune,
ambitieux,
ambitieux.
Ma phrase c'est la jeunesse en plein boom.
Wow. Ah, ça va.
Donc aujourd'hui, si vous pouviez changer les choses, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Comment vous aimeriez voir les choses changer dans les prochaines décennies?
La paix dans le monde. T'as cru que t'étais une Miss France.
Ça veut dire quoi pour toi la paix dans le monde?
Pas de guerre. Hein.
Moi, je veux devenir riche.
Moi, j'espère que ma bourse, ça vient de même. Ça retarde depuis 3 jours, ça commence à me saouler.
Moi, je vais aller à la Mecque avec ma mère.
Wow.
Avec ma mère. Je suis content, moi aussi, parce que les étudiants, ils ont 100 euros en plus dans la bourse.
Bah, c'est sûr que les conditions matérielles et l'argent, c'est important parce que sinon...
L'argent, c'est la liberté. Le bonheur... c'est quoi la phrase de Booba? C'est « L'argent fait pas le bonheur, mais le bonheur, il remplit pas l'assiette. Oh. »
Boubou Banks.
Boubou Banks.
Et comment vous voyez l'assaut dans 10 ans?
Fini. Pourquoi? Christophe à la retraite, donc plus d'assaut.
En train de rendre fou les vieux.
Boutouba, mais... maire de Perpignan.
Non, moi je me demande qui va mourir en premier.
Vas-y Zineb.
J'espère que d'ici une dizaine d'années, bah, tous les jeunes qui seront là, enfin pas forcément nous, mais les autres, bah, ils vont percer, j'espère. Et que
de la réussite.
Que oui, qu'ils montent une chaîne de télé par exemple ou un peu plus moderne, qu'ils soient, je sais pas, des influenceurs par exemple, qui pourraient influencer les autres,
prendre de l'espace médiatique.
Oui, voilà. Et plutôt dans la jeunesse, ça serait mieux.
Ok, bah merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à
donc,
vous.
Je rappelle,
merci de nous avoir accueillis.
L'association Jeunes Reporters Citoyens de Perpignan.
Merci.
Des derniers mots, un dernier au revoir, un petit dernier.
Je suis content d'être en vie. Ça fait plus de 100 ans que je suis en vie. Je vous souhaite tous de trouver la pièce manquante du puzzle.
Bonne fin de journée à tout le monde. Je l'ai pas senti. J'ai choisi de mettre la musique comme un ancien retour de flamme parce qu'en fait je parle des conséquences que tu peux avoir quand on fait du mal ou quand on fait du mal à quelqu'un, comme vous allez l'entendre de suite.
Merci à tous et toutes d'avoir été là.
Merci
à vous, on a passé un très bon
moment.
Retour de flamme, quand tu te fous de la gueule d'une meuf et que cette dernière revienne 9 mois après avec un marmot. En te disant t'as cru que t'allais t'en sortir comme ça mon coco. Mais t'es fou, faut pas lui faire à l'envers. C'est le retour de flamme et là tu viens en enfer. Quand tu hagales un petit, n'oublie pas qu'un jour ce petit va revenir pour te péter, pour se venger. Un gamin n'oublie jamais le mal qu'un grand lui a infligé. C'est le retour de flamme quand tu te crois invincible. Un minus t'as mis à l'amende, pour toi c'était impossible. T'étais fort au foot, c'est chaud mais t'as préféré les joindre. Manager t'a remballé, va te faire foutre. Le retour de flamme arrive quand tu t'y attends pas. Tu l'as appelé, il est venu pour te fight. Quand il t'arrive un truc dans la vie, sois pas stupéfait. C'est que tu l'as provoqué. C'est le retour de flamme. Quand il t'arrive un truc dans la vie, sois pas étonné. C'est que tu l'as mérité. C'est le retour de flamme. T'as joué avec le feu, tu t'es brûlé. Tu regrettes, ça sert à rien, tu vas hurler. C'est le retour de flamme, t'as oublié, mais pas lui. Si t'as pas encore payé, t'es en sursis. C'est le retour de flamme, t'as carotté des mecs droits. Ils sont venus, donc criblés de balles et chez toi. C'est le retour de flamme, ce qui se passe en banlieue. C'est la hasse normale, ils nous ont mis entre malheureux. Des attentats un peu partout, c'est logique. Exterminer les musulmans, voilà ce qu'ils communiquent. Égorger un soldat, c'est vrai que ça se fait pas. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est le retour de flamme, c'est comme ça. Tu mets une tarte, je te mets un coup de poing. Voilà comment pense la plupart des êtres humains. Le retour de flamme, moi je l'ai goûté. Je le goûte chaque jour, je l'ai goûté. J'en tire que des bonnes leçons. Avant de faire quoi que ce soit, je fais très attention. Tôt ou tard, ouais, il viendra te voir, ouais. Pour faire payer dans la vie, y'a pas de hasard. C'est le retour de flamme. Quand il t'arrive un truc dans la vie, sois pas stupéfait. C'est que tu l'as provoqué. C'est le retour de flamme. Quand il t'arrive un truc dans la vie, sois pas étonné. C'est que tu l'as mérité. C'est le retour de flamme. T'as joué avec le feu, tu t'es brûlé. Tu regrettes, ça sert à rien, tu vas hurler. C'est le retour de flamme. T'as oublié, mais pas lui. Si t'as pas encore payé, t'es en sursis. C'est le retour de flamme. Tu penses qu'à boire, qu'à fumer. À 40 ans, toujours chez maman, pas marié. Tu penses qu'à fourniquer, les autres avancent, toi tu tournes comme un tourniquet. T'es à l'ouest, jamais dirigé vers l'est. Il t'arrive que des poisses quand la prière tu délaisses. Elle pense qu'à se maquiller, faire la belle. Mais le soir elle pleure toute seule chez elle. C'est le retour de flamme quand tu roules trop vite. Ça y est, c'est mort, la mort au tournant. Impossible, tu l'évites. C'est le retour de flamme, t'as joué avec ses sentiments. Tu vas tomber sur une grosse dans peu de temps. Et ouais mon pote, le retour de flamme n'oublie personne. On va mon pays avant que notre heure sonne. Et ouais ma pote, le retour de flamme n'oublie personne. On va mon pays avant que notre heure sonne. C'est comme ça. Quand il t'arrive un truc dans la vie, sois pas stupéfait, c'est que tu l'as provoqué. C'est le retour de flamme. Quand il t'arrive un truc dans la vie, sois pas étonné, c'est que tu l'as mérité. C'est le retour de flamme. T'as joué avec le feu, tu t'es brûlé. Tu regrettes, ça sert à rien, tu vas hurler. C'est le retour de flamme. T'as oublié, mais pas lui. Si t'as pas encore payé, t'es en sursis.